Au micro, Idrissa Seroudia, bonjour. Ici à Washington, le président Donald Trump, qui a été testé positif au COVID-19, est rentré lundi soir à la Maison-Blanche en hélicoptère depuis l'hôpital militaire de Walter Reed dans la banlieue de Washington, où il subissait un traitement médical depuis vendredi. Nous y reviendrons dans un instant avec Jean-Roger Bion. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé lundi que les écoles de 9 quartiers de la première métropole américaine allaient fermer à partir de ce mardi pour tenter d'empêcher que la ville ne soit frappée par une seconde vague de coronavirus, en attendant une décision sur les commerces non essentiels. Alors que plusieurs pays européens ont pris des mesures face à l'augmentation du nombre des malades, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur mardi pour au moins 15 jours à Paris, placée en zone d'alerte sanitaire maximale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a jugé la situation sanitaire très grave. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé lundi que le coronavirus était un signal d'alarme pour la communauté internationale, réclamant une accélération de la réforme de l'organisation face aux urgences sanitaires. Et selon son directeur des urgences sanitaires, Michael Ryan, environ 10% de la population mondiale pourrait avoir été infectée, soit environ 780 millions de personnes, bien au-delà des chiffres officiels, qui s'élèvent à plus de 35 millions de cas. La pandémie a fait au moins 1 037 971 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan de l'AFP lundi. Le Fonds monétaire international a approuvé lundi le versement d'une nouvelle aide d'urgence pour 28 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. Cette annonce, qui fait suite à une mesure identique décrétée mi-avril pour 25 pays, doit aider ces pays à couvrir les remboursements de leurs dettes envers le FMI pendant les 6 prochains mois, et dégager leurs maigres ressources pour leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide face à la pandémie. Parmi les 28 pays bénéficiant de cette deuxième tranche d'aide, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, Djibouti, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Sierra Leone, la Tanzanie et le Togo. Au Mali, la transition vers un retour des civils au pouvoir a franchi lundi une nouvelle étape avec la formation d'un gouvernement dans lequel les membres de la junte obtiennent néanmoins des positions stratégiques. Nous y reviendrons avec Kassim Traoré. En République démocratique du Congo, des civils ont été tués ces 4 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et dans le Nord Kivu, dans des attaques attribuées à des milices. Et le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi à Goma pour une visite sur les questions sécuritaires dans l'est de son pays. Nous y reviendrons avec Eddie Isango. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dénoncé mardi ce qu'il a appelé l'activité sournoise de la Chine lors d'une journée d'échanges quadrilatéraux à Tokyo avec ses homologues australiens, indiens et japonais visant à afficher symboliquement un front uni face aux géants asiatiques. En matinée, M. Pompeo et la ministre australienne des Affaires étrangères, Maryse Payne, ont fait état de leurs inquiétudes partagées sur l'activité sournoise de la Chine dans la zone Indo-Pacifique, selon un communiqué du Département d'État américain. Le chef de la diplomatie turque se rend ce mardi en Azerbaïdjan, proche allié de la Turquie, pour évoquer les affrontements au Nagorno-Karabakh entre l'armée de Bakou et les séparatistes arméniens, indique le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seroudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. suite de nos informations, au Mali, un gouvernement de 25 membres a été nommé lundi par le président de la transition Barnaou. Au moins 4 militaires obtiennent des postes clés dans le ministère de la Défense. Sur les 25 membres, il n'y a que 4 femmes. Le M5-RFP n'est pas officiellement représenté dans l'équipe actuelle, selon Choguel Maïga, président du comité stratégique du M5-RFP. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le président de transition au Mali, Barnaou, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent les postes clés. Au moins 4 ministères stratégiques comme la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale sont confiés à des colonels membres de CNSP. Ainsi, le colonel Sadio Camara, l'un des dirigeants de la JET, devient le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le porte-parole du CNSP, le colonel major Ismaël Ouagé obtient le portefeuille de la réconciliation nationale. Modibo Koné, numéro 3 de l'ex-junte, devient ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi les 4 femmes de la nouvelle équipe gouvernementale, figure la fille aînée de l'ancien président de la République, Alpha Omar Konaré, en la personne de Kadiatou Konaré. Elle est éditrice et hérite du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Les 3 autres femmes du gouvernement sont Dr. Fanta Sibi, elle s'occupe de la santé et du développement social. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable est confié à Bernadette Keïta, alors que la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sera gérée désormais par Bintou Fune Samake. Le M5-RFP, par la voix du président de son comité stratégique, Choguel Kokala Maïga, dit qu'ils ne sont pas membres de ce gouvernement, car ils avaient fait une proposition au premier ministre qui devrait leur revenir avant de faire une proposition au président. Mais à leur grande surprise, ils ont vu que le gouvernement a été formé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une dizaine de civils ont été tués ces 4 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et dans le Nord Kivu. Le président Félix Tshisekedi est dans le Nord Kivu depuis lundi. Le point avec Eddie Isango.
Au moins 11 morts ont été enregistrés pour la journée de dimanche et hier dans 4 entités, selon l'administrateur du territoire de Djougou en Ituri, à Lingi Mukuba. Des sources onusiennes parlent plutôt de 12 personnes tuées le week-end dernier. L'administrateur du territoire, comme la mission onusienne MONUSCO, pointe du doigt la CODECO, coopérative pour le développement du Congo. Cette secte politico-militaire prétend défendre les Lindous, l'une des communautés des Lituri. La secte est très morcelée depuis la mort de son leader en début d'année. Le président Félix Tshisekedi est depuis hier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des membres des mouvements citoyens ont manifesté à côté de la foule venue l'accueillir pour lui rappeler que des milices et des rebelles continuent à tuer des civils dans l'est du pays. Le président Tshisekedi aura mercredi un mini-sommet sur la sécurité par visioconférence avec certains et ses collègues de la région du Grand Lac.
Le président américain Donald Trump a quitté lundi soir le centre médical militaire Walter Reed, situé près de Washington, pour rejoindre la Maison-Blanche par hélicoptère. Peu auparavant, il avait annoncé son intention de reprendre bientôt la campagne pour sa réélection. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président américain, qui était hospitalisé depuis vendredi, est rentré à la Maison-Blanche en hélicoptère depuis l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington. Après avoir gravi quelques marches et regagné le balcon de la résidence présidentielle, il a ôté son masque et a levé le pouce en direction des journalistes. Le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, a cependant prévenu que le président américain, qui aura été hospitalisé pendant 3 jours depuis son admission vendredi soir, n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire. Il a précisé que l'équipe médicale, prudemment optimiste, ne serait pas totalement soulagée avant une semaine. Juste avant de sortir de l'hôpital, Donald Trump a tweeté qu'il retournerait bientôt sur le terrain pour reprendre la campagne avant l'élection du 3 novembre. Il a notamment l'intention de participer au prochain débat présidentiel contre son rival démocrate, Joe Biden, le 15 octobre à Miami, en Floride, a déclaré lundi le porte-parole de la campagne Trump. Dernière collaboratrice du président à avoir appris sa contamination, la porte-parole de la Maison-Blanche, Kelly McEnany, a annoncé lundi s'être placée en quarantaine.
26 pays, dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Bélarus et l'Iran, ont réclamé lundi dans une déclaration commune la fin des sanctions américaines et d'autres pays occidentaux qui, selon eux, violent les droits humains dans la lutte contre la pandémie. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Nous saisissons cette occasion pour appeler à la levée complète et immédiate des mesures coercitives unilatérales afin de permettre une réponse au COVID-19 complète et efficace de tous les membres de la communauté internationale, affirme la déclaration lue par la Chine lors d'une réunion d'une des commissions de l'ONU. Les pays signataires disent continuer d'assister à l'application de mesures coercitives unilatérales contraires aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ils estiment que la réponse au COVID-19 nécessite une solidarité mondiale et une coopération internationale. Les États-Unis, comme leurs alliés européens, soutiennent que les sanctions imposées ne concernent pas le domaine humanitaire et que les exceptions sont toujours possibles, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Parmi les 26 pays signataires, on note des nations africaines comme l'Angola, le Cameroun, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Namibie, le Soudan du Sud, le Soudan ou encore le Zimbabwe.
La Minute Éco, Nanette Talani.
Au Libéria, le projet de renforcement de la résilience climatique des filières riz et cacao a obtenu un financement de 9,6 millions de dollars auprès du Fonds d'adaptation au changement climatique. À en croire l'agence Ecofin, ces fonds serviront à la mise en place d'une production agricole plus résistante aux aléas climatiques. Ils permettront aussi la diversification des moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et la construction d'infrastructures de transport rural et d'accès à l'eau. Le Soudan du Sud veut construire des réserves stratégiques de carburant ainsi que 4 raffineries pétrolières pour satisfaire sa demande, viser les marchés demandeurs et freiner les importations qui coûtent beaucoup en termes de devises. Selon Ecofin, le budget sud-soudanais dépend à 98% des revenus pétroliers, mais le pays n'a pas de raffinerie et doit dépendre des importations. Pour terminer, le gouvernement sénégalais table sur une hausse de 5,2% du PIB l'an prochain et de 7,2% en 2022 grâce aux investissements dans le secteur pétrolier et gazier et à la construction de 100 000 nouveaux logements. Par ailleurs, le nouveau programme gouvernemental baptisé PAP 2A devrait mobiliser quelque 14 712 milliards de francs CFA d'ici à 2023, dont près de 40% doivent venir du secteur privé national et international.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Des nouvelles du marché des transferts qui s'est refermé hier. Le Bayern Munich a officialisé le recrutement pour une saison d'Éric Maxime Choupo-Moting en provenance du Paris Saint-Germain. L'attaquant international camerounais de 31 ans a signé un contrat jusqu'au 20 juin 2021, indique le club bavarois sur son site internet. L'ancien Parisien, qui doit servir de doublure au buteur Robert Lewandowski, a déjà joué en Allemagne à Hambourg, Nuremberg, Mayence ou encore Schalke 04. Le Bayern Munich était sous pression pour recruter avant la fin du mercato. L'entraîneur Hansi Flick avait demandé plusieurs renforts pour compenser les départs notamment de Philippe Coutinho et Perisic en attaque et de Thiago Alcantara en milieu de terrain. L'attaquant sénégalais Habib Diallo s'est engagé, lui, avec Strasbourg pour les 5 prochaines saisons en provenance de Metz. Son indemnité de transfert avoisinerait les 15 millions d'euros. Et pour sa part, le Stade de Reims a annoncé la signature pour 3 saisons du jeune milieu de terrain sénégalais Dion Lopi, 18 ans, qui évoluait à l'Oslo Football Academy de Dakar. Le milieu droitier a attiré l'attention des recruteurs rémois lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019 en Pologne, lors de laquelle le Sénégal a atteint les quarts de finale de la compétition. De son côté, le FC Séville a accueilli un nouveau joueur marocain, Oussama Idrissi, qui arrive de l'AS Alkmaar. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol, rejoignant ainsi ses compatriotes Yassine Bounou, Mounir El Haddadi et Youssef N. Nesri, déjà en Liga. Le milieu de terrain français de Chelsea, Tiemoue Bakayoko, a été prêté à Naples. Il va ainsi retrouver en Italie l'entraîneur Gennaro Gattuso, qui fut son coach lors de la saison 2018-2019 à l'AC Milan, où il avait déjà été prêté par les Blues. Et puis, la sélection féminine du Nigeria a un nouvel entraîneur. Un an après le départ de Thomas Demerbi, les Super Falcons seront désormais dirigés par Randy Waldron. L'Américain a été sélectionneur de l'équipe nationale féminine de Trinité et Tobago de 2014 à 2016.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie d'Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les autorités de la transition ont libéré plus de 100 prisonniers djihadistes présumés. Ces libérations massives et rares, intervenues au cours du week-end, entreraient dans le cadre de négociations en vue de la libération d'otages détenus par des djihadistes. Sur ces libérations de djihadistes présumés, voici au micro d'Abdourahman Dia ce qu'en pense André-Marc Boisvert, chercheur sur les questions sécuritaires au Mali, basé à Washington, D.C.
Aujourd'hui, c'est un processus qui visiblement a été établi avant. Ça n'arrive pas au milieu de nulle part. Donc, il faut voir ça comme un long processus qui a probablement commencé un peu avant même le coup d'État. Bon, et plusieurs éléments laissent souligner que c'était un long processus. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'il y a une rançon qui a été payée, ce que plusieurs personnes suggèrent aujourd'hui, mais on n'en sait pas plus. Et après ça, savoir quel est l'autre élément que le gouvernement essaie d'obtenir d'eux.
Alors, plus de 100 djihadistes libérés, c'est une opération d'envergure, n'est-ce pas? Et c'est assez rare dans le contexte malien. Après le putsch, vous pensez que la junte essaie de faire bouger les lignes et de faire de la libération des otages une priorité?
Ben, visiblement, ça semble être la première, une bonne priorité. Pour la communauté internationale, ces otages-là sont extrêmement importants. C'est une façon de marquer leur intérêt et surtout marquer leur désir de transition. Il faut savoir, est-ce que ça va être populaire au sein des forces armées? Et de savoir que la junte a entrepris ce mouvement-là, c'est assez surprenant, en fait.
Oui, auprès de l'armée, mais aussi auprès de l'opinion. Et comment est-ce que l'opinion publique malienne pourrait interpréter cette libération massive de djihadistes?
Il y a probablement différentes populations qui vont avoir différentes réactions. Pour beaucoup de gens, ces djihadistes-là ne sont pas perçus comme des personnes extérieures. Pour beaucoup de ces gens-là, c'est des locaux. Plusieurs sont vraiment de la région. Donc, de quelque part, c'est... Pour beaucoup de familles, notamment du centre et du nord du Mali, c'est finalement une possibilité d'avoir une discussion et possiblement d'avoir une paix durable. Donc, cette idée-là qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes, plusieurs experts l'ont annoncé dans les dernières années que peut-être que ce n'était pas viable, notamment puisqu'on fait face à beaucoup de conflits communautaires, possiblement ça va être une avancée à ce niveau-là. Mais après ça, il faut savoir est-ce que c'est ces djihadistes-là qui sont libérés. Est-ce qu'ils vont finalement à la fin se réunir à une solution pacifique? Est-ce que ça va entraîner la fin des conflits ou est-ce que ça va entraîner plus de conflits? Et ça reste à voir. C'est un calcul que fait la junte, mais pour le moment, on n'a aucune idée qu'est-ce que sera l'impact.
Vous pensez que ces négociations pourraient ouvrir la voie à des discussions sur la situation dans le centre et le nord du Mali?
Mais à quelque part, c'est inévitable que ces libérations-là vont changer comment on discute. Visiblement, la junte est prête à discuter avec l'ennemi, finalement. Donc, inévitablement, le conflit malien risque de prendre une nouvelle direction à partir de là. Je ne dis pas que ça va être une révolution, mais du moins, il y a une nouvelle méthode de discuter qui va être prise. Après ça, faut voir est-ce que ça va régler le problème ou pas.
André-Marc Boisvert, chercheur sur les questions sécuritaires au Mali, basé à Washington, D.C.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Nigeria, le chef de la police a interdit à une unité controversée de lutte contre les vols et à d'autres agents spéciaux de monter des barrages routiers et de mener des opérations d'interpellation et de fouilles suite à des accusations d'abus. Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
L'unité spéciale SAS est une branche de la police nigériane relevant du département des enquêtes criminelles. C'est une unité très redoutée au Nigeria en raison d'accusations d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres de suspects. Les appels se sont multipliés ces derniers mois demandant la suppression pure et simple de l'unité spéciale. Aïcha Youssefou, une militante nigériane des droits humains, fait partie de ceux qui appellent à une réforme de la police et à la bonne gouvernance dans le pays.
Le Nigeria ne sera débarrassé du SARS, l'unité de lutte anti-vol, que lorsque les Nigérians vont décider d'être libres. Tant que nous continuons à ne rien faire et tant que nous pensons que nous ne voulons pas sortir pour protester ou poser des questions au gouvernement, où nous ne sommes pas unis pour faire entendre nos voix, ceux qui sont au pouvoir vont continuer à mal se comporter.
De nombreux abus commis par les éléments de l'unité spéciale SAS ont été publiés par des Nigériens sur les réseaux sociaux sous le hashtag NSAS ou encore Supprimer SAS. Hidayat Hassan du Centre pour la démocratie et le développement estime qu'il faut tout simplement mettre fin à cette unité.
On previous occasions, they've been said to be banned, they've been removed from the
À plusieurs reprises, ils ont annoncé de les enlever dans les rues, mais nous n'avons pas encore vu cette décision appliquée. Il y a vraiment une nécessité de supprimer cette unité si nous devons tenir compte des violations des droits humains et des atrocités qu'ils ont commises pendant les 10 dernières années.
Samedi, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux montrant une équipe d'éléments de l'unité spéciale anti-vol de la police qui aurait tiré et tué un jeune homme. L'incident se serait produit dans l'état du Delta, dans le site pétrolier. Cet incident a de nouveau suscité une grande indignation dans tout le pays.
Entre 2017 et 2020, le chef de la police a ordonné la suppression de cette unité antivol de la police 5 fois. Mais je pense que cela ne va pas résoudre le problème parce que le problème en jeu est plus profond que nous voyons.
Ils mènent des arrestations sans mandat. Ils fouillent sans mandat. Ils font beaucoup de choses parce qu'ils pensent qu'ils portent une arme. Ils estiment ainsi qu'ils ont l'avantage sur les populations. Et cela ne doit pas être comme ça.
Les tentatives avortées de réformer la brigade spéciale de répression des vols SAS perpétuent le cycle vicieux des violations des droits humains. Deux agents de l'unité et un civil complice ont été arrêtés à Lagos, la capitale commerciale, pour des actes non professionnels, notamment l'extorsion et l'intimidation des citoyens. Les autorités n'ont pas encore poursuivi en justice un seul membre de la brigade spéciale de répression des vols. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, a connu au week-end ce qu'on appelle « couleur vacances », une compétition de danse urbaine. Malgré le contexte de coronavirus, la manifestation a pu se tenir. Cette année, la compétition qui se veut régionale n'a pas pu accueillir des participants de pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo ou encore le Bénin, en raison de la crise sanitaire. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
De la danse encore, de la danse devant des milliers de spectateurs. 5 groupes en compétition, 2 de Ouagadougou et 3 de Bobo Dioulasso. Au finish, c'est le groupe samouraï de Bobo Dioulasso qui est monté sur la plus haute marche du podium en remportant 1 200 000 francs CFA. Mohamed Dambélé est le coach du groupe.
On est trop contents ce soir parce que bon, on vient de réaliser notre rêve. Oui, le corona, ça nous a trop empêché de bosser parce que au niveau de la préparation, quand on voulait demander du financement pour nos matériels dedans, nos accessoires, ça n'a pas été facile. Tout le monde nous fuyait. Bon, on le comprenait parce que le corona, vraiment, ça n'a pas été facile.
Même dans ce contexte de coronavirus, le public a répondu présent. Cet étudiant est venu lui aussi assister au spectacle.
Chaque année, voilà, on assiste à une cérémonie pareille qui rassemble les élèves, les étudiants autour de la culture. Et c'est un réel plaisir d'assister. C'est vrai que le contexte actuel est critique, voilà, et que nous devons tenir compte des mesures barrières. Mais c'est toujours un plaisir d'assister à une cérémonie à laquelle où on sent que les gens ont de plus en plus confiance, voilà, en ce que l'État fait. voilà, même si c'est difficile pour nous de respecter ces mesures-là, mais on va continuer toujours avec l'aide de nos aînés.
Avec le Covid-19, les organisateurs n'ont pas pu ouvrir cette édition des Couleurs Vacances au pays de la sous-région.
Couleurs Vacances est une compétition internationale qui regroupe d'habitude 7 à 8 pays.
Sylvain Bamouni est le directeur des opérations du groupe Ebony, structure organisatrice de la manifestation.
Cette année, vous êtes tous au courant de cette pandémie de coronavirus, ce qui n'a pas permis aux groupes étrangers de faire les déplacements sur le Burkina Faso. Donc nous avons fait une compétition nationale en regroupant les différents groupes des différentes régions du Burkina qui se sont croisés à Bobo.
Cela fait 14 ans que la manifestation qui réunit chaque année les jeunes pendant les vacances se tient. Les organisateurs n'ont pas voulu annuler cette édition. Ils espèrent que la 15e édition en 2021 se tiendra, elle, dans de meilleures conditions. Lamine Traoré, Bobo Dioulasso, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cette semaine, tous les regards sont braqués sur le président Donald Trump qui a été testé positif au coronavirus. Il a regagné la Maison-Blanche lundi soir, après un séjour de quelques jours à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington. Le chef de l'exécutif américain avait assuré au week-end dans une vidéo qu'il se sentait beaucoup mieux. Reportage de Michel Quinn, récit de Lionel Gahima.
Beaucoup d'inconnus entourent l'état de santé du président Trump, y compris comment son infection au Covid-19 pourrait affecter la campagne pour la présidentielle du 3 novembre. Plus de 35 millions de personnes ont été atteintes du nouveau coronavirus dans le monde, selon l'Université Johns Hopkins de Baltimore, dans l'État du Maryland. Dans une vidéo publiée samedi sur Twitter, le président Trump a lié sa lutte personnelle contre le Covid-19 à une mission pour aider les autres malades.
C'est quelque chose qui est arrivé, et c'est arrivé à des millions de personnes dans le monde entier. Je lutte pour elles, non seulement pour les États-Unis, mais je lutte pour elles dans le monde entier. Nous allons vaincre le coronavirus, ou quoi que vous vouliez l'appeler, et nous allons le vaincre nettement.
Les médecins du président des États-Unis ont fait savoir dimanche qu'ils le traitent avec le stéroïde dexaméthasone et qu'ils pourraient regagner la Maison-Blanche de ce lundi. La maladie du président intervient alors que son adversaire, l'ancien vice-président Joe Biden, et lui amorcent les 4 dernières semaines de campagne. L'équipe de Biden affirme avoir retiré des publicités électorales négatives après avoir appris que le président Trump avait été contrôlé positif au nouveau coronavirus. Un débat prévu mercredi entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris, est toujours au programme. Plusieurs sondages nationaux donnent l'avantage à Biden dans les intentions de vote. Comment la maladie du président affectera-t-elle les dernières semaines de la campagne électorale? Cette situation a forcé le camp Biden à fonctionner en deux modes. Exprimer sa préoccupation concernant l'état de santé de Trump, tout en établissant un contraste entre les styles de leadership des deux candidats. Kate Bedingfield est directrice adjointe de la campagne de Biden.
Ce n'est pas une question de politique, c'est une question du président des États-Unis recouvrant pleinement sa santé aussitôt que possible. Et je pense qu'en ce qui concerne notre campagne, comme je le dis, nous allons continuer de faire valoir le style de leadership de Joe Biden, son expérience, son unique habileté à unir le pays, à trouver un terrain d'entente, à trouver un consensus et faire avancer les choses.
Pour Jason Miller, haut responsable de la campagne de Trump, le président a pris de nombreuses précautions et a prouvé qu'il est un leader dans la lutte contre le virus.
Également, et ainsi que nous l'avons vu avec Joe Biden, je veux dire, nous ne pouvons pas rester dans notre sous-sol pour le restant de nos vies. Nous devons sortir et vivre nos vies, affronter cette situation, développer le vaccin, développer plus de traitements et la vaincre.
Pour le camp Trump, ce moment pourrait être une opportunité pour persuader les indécis qui pourraient faire la différence au jour du vote, estime la stratège républicaine Alice Stewart.
Il a besoin d'en parler à ses électeurs indécis. Et en adoptant un ton plus empreint de compassion et en reconnaissant la gravité de cette pandémie, cela pourrait certainement aider à faire pencher les gens n'ayant pas encore pris de décision.
Une chose est certaine, personne ne connaît l'issue de ce qui est déjà une bataille ardue pour la Maison-Blanche.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.